Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On répond à vos questions tous les jours à 11h30 dans Tout pour investir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au crowdfunding, au financement participatif, comme on dit en bon français pour nos auditeurs les plus puristes. Parce que figurez-vous que ce crowdfunding fête ses 10 ans. Et oui, 10 ans que vous pouvez financer de manière collégiale des projets. Et nous allons décrypter cette histoire de 10 ans avec deux invités. La première, c'est Florence de Maupoux. Bonjour Florence.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes directrice générale de Financement Participatif France. Vous allez nous éclairer au cours de cette interview. Vous êtes accompagnée de Bertrand Desportes. Bonjour Bertrand.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes associé chez Mazars. On revient sur une étude que peut-être certains d'entre vous ont déjà pu regarder de près ou de loin sur le crowdfunding qui dit plein de choses finalement de notre rapport à l'investissement. En disant, peut-être qu'on peut démarrer par ça, si vous voulez bien. Bertrand, vous qui êtes de nature, comment dire, consulting, donnez-nous votre regard sur ce que dit l'intérêt du financement participatif pour les Français et les Françaises qui mettent des billes dans ce mode d'investissement.
Ah, vous avez raison, en fait, les 10 années du crowdfunding, les décrets d'application qui ont permis aux plateformes d'opérer date de 2014, on est en 2024, donc on a vraiment un recul de 10 ans. Au tout début, le crowdfunding en France représentait moins de 200 millions de collectes par an. On est à plus de 2 milliards pour la deuxième année consécutive, ce qui veut dire que c'est vraiment ancré dans l'usage des Français en matière d'épargne, d'investissement, tout simplement parce que c'est des projets qui font sens, des projets de proximité, des projets qui apportent de la transparence et de l'intérêt à la fois économique, mais aussi il y a une dimension valeur qui est assez forte. Et puis le crowdfunding, il faut bien le dire, a des qualités intrinsèques. Vous choisissez vraiment votre projet, ce qui permet d'avoir un ciblage de son investissement, et ça, c'est tout à fait pertinent et dans l'air du temps.
Ciblage et proximité vous semblent deux mots pour qualifier ce financement participatif, chère Florence?
Oui, complètement, et j'ajouterais la transparence aussi. C'est vraiment l'essence même du financement participatif, la transparence pour l'investisseur ou le donateur, parce que peut-être pour...
On va revenir un peu aux origines,
parce
que c'est, je vais vous faciliter.
Mais voilà, transparence, parce qu'on choisit d'affecter son argent à un projet dédié.
C'est un peu un mot valise, le crowdfunding. Je le vois d'avoir lu quelques auditeurs qui m'écrivent depuis le début de l'émission. On a un peu l'impression qu'il y a un peu à boire et à manger derrière ce mot. Qu'il y a plein, on a utilisé le mot plateforme. Il y a plein de plateformes. Mais qu'est-ce que c'est à la base le financement participatif? L'éthique.
Non, c'est vrai que ça recoupe une variété d'acteurs. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein, une variété d'acteurs. En fait, il y a trois métiers dans l'univers du financement participatif. Le don, donc vous allez avoir le don avec ou sans contrepartie. Sans contrepartie, on est plutôt sur le secteur associatif, avec contrepartie plutôt le secteur entrepreneurial. Et les contreparties vont être soit symboliques, soit on est quasiment sur de la prévente, du préachat pour le contributeur. Le prêt rémunéré ou non rémunéré ou l'emprunt obligataire. Donc là, on est dans une démarche beaucoup plus financière avec des taux d'intérêt qui peuvent aller de 4 à 12% en fonction du secteur d'activité, du risque de l'entreprise financée. Et donc sur des entreprises un peu matures, 2 ans minimum d'exercice comptable. Et puis l'investissement en capital, là, l'entreprise va... entreprise ou start-up va ouvrir son capital à de nouveaux actionnaires et tout un chacun peut mettre à partir de 100€ parfois sur certaines plateformes au capital, enfin pour devenir vraiment actionnaire de l'entreprise. Donc c'est ça un peu toutes les variétés avec une centaine de plateformes qui existent dans l'univers du financement participatif.
Du don au prêt rémunéré ou pas, l'obligataire en parlant par l'investissement en capital, on voit la largeur de l'univers d'investissement dont on parle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement comment on devient investisseur crowdfunder? On peut mettre sur, une fois de plus on va utiliser ce terme, directement sur une plateforme, mais ça concerne aussi les fonds.
Oui, alors les plateformes travaillent de plus en plus avec des fonds et collaborent aussi de plus en plus avec des CGP et des conseillers en investissement participatif, des conseillers en investissement financier, pardon, qui vont accompagner leurs clients et faire une analyse de telle ou telle plateforme pour pouvoir proposer cet outil de financement dans une démarche de diversification du portefeuille de leurs clients. Donc c'est vrai que c'est des canaux de collecte qui sont de plus en plus courants et que révèle le baromètre qu'on publie chaque année avec Mazars.
Justement, Bertrand, vous allez nous aider à prendre la mesure de ce crowdfunding. Mettez-nous quelques chiffres pour qu'on comprenne ce que ça pèse. Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce qu'on a autant de gens investis en crowdfunding que d'autres pays? Est-ce qu'on peut, vous pouvez un peu nous benchmarker?
Oui, alors déjà en France, on est sur une année à 2,1 milliards de collectes. Alors c'est un petit peu en recul par rapport à 2022, puisqu'on enregistre une baisse de moins 11,3%. Alors le crowdfunding n'échappe pas aux réalités économiques des sous-jacents, et l'immobilier pesant beaucoup dans le crowdfunding, comme vous le savez, l'immobilier a enregistré plutôt une mauvaise année, moins 28% de collecte.
On va y revenir, aller sur l'immobilier.
On y reviendra, mais du coup, ça fait une année, oui, en demi-teinte, mais pleine de contrastes, parce que vous avez l'immobilier qui baisse, et dans le même temps, on a les énergies renouvelables, le financement de la transition énergétique, en éolien, en solaire, en biogaz, etc., qui, lui, progresse de 12%, et il y a un dernier aspect qu'il faut avoir en tête, c'est l'innovation qui, lui, progresse de plus de 78%, ce qui est tout à fait considérable. Pour répondre à votre question aussi, il y a le nombre de projets qui est important. On dépasse pour la première fois 150 000 projets financés à l'année.
Alors 150 000 projets.
En balance avec 2 millions d'euros, il n'y a pas que des gros projets. Mmh. Il y a même beaucoup de petits projets, de micro-entrepreneuriat, d'artisanat, de solidarité. Puisque comme Florence l'évoquait, il n'y a pas que de l'investissement, il y a aussi du don et ça fait beaucoup de volumétrie. Mais c'est aussi ça le crowdfunding et c'est vraiment rentré dans les mœurs et dans les usages. Et c'est des projets qui sont le plus souvent à impact et qui font sens pour les porteurs de projets et pour les Français qui s'y intéressent. Par rapport à un benchmark européen, j'aurais tendance à dire que la France est très bien placée en termes de nombre de plateformes sous PSFP, qui est le nouveau régime et le nouvel agrément. On est en tête avec plus de 55 plateformes.
Il y a 55 plateformes sur 128 PSFP en Europe.
Voilà. Bon, pour ceux qui nous suivent, un nouvel acronyme, mais très simplement, PSFP, c'est un agrément qui va permettre ou qui permet déjà aux plateformes qu'ils souhaitent de passeporter leurs activités d'un pays à un autre, enfin d'un État à un autre. J'ai bien résumé ?
Oui, alors il y a cette logique de passeport, il y a aussi cette logique d'obligation réglementaire, c'est-à-dire vous devez avoir des fonds propres réglementaires, vous devez avoir un dispositif de gestion des risques, vous devez assurer à vos investisseurs de la transparence sur les projets, du reporting, et vous classez vos investisseurs en non-avertis ou en avertis. Ce qui veut dire qu'en fonction de la classification, ces investisseurs vont avoir le droit à un délai de rétractation plus ou moins long, à avoir plus ou moins d'informations, donc leur parcours d'investissement est jalonné. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et le PSSP vous garantit ça.
C'est un vrai KYB, en fait, des plateformes vis-à-vis de leur... Enfin, KYB, non, pas exactement, mais du coup, c'est un vrai travail d'identification et de vérification que les plateformes doivent faire.
Oui, c'est vraiment une garantie pour l'épargnant de passer par des plateformes qui ont cet agrément parce que ça leur assure finalement plus de sécurité, plus de transparence.
Bertrand Desportes de chez Mazars, Florence de Maupoux de Financement Participatif France, du don au prêt, en passant par l'investissement en capital, quelles sont les grandes masses? Le don aujourd'hui pèse combien à l'intérieur du financement participatif? Est-ce qu'on sait ça?
Alors, en termes de nombre de projets, le don recense la plus grande masse de nombre de projets. En termes de volume, on est sur des chiffres un peu plus
160 millions.
160 millions, oui. Voilà. En termes de nombre de volume collecté en financement en don, et c'est le prêt rémunéré et l'obligataire. Enfin, c'est l'obligataire en fait surtout qui collecte 60-70% des volumes collectés sur l'année 2023 en crowdfunding. Et on est à 268 millions sur l'investissement en capital pour l'année 2023, donc une très belle progression aussi en 2023 de l'investissement en capital.
On va zoomer sur l'immobilier, on va aussi zoomer sur les projets d'énergie renouvelable qui, vous nous le disiez un petit peu déjà en sous-jacent, représentent une grosse partie du financement participatif, ou en tout cas sont des mots associés au financement participatif, l'impact. Mais avant, je voudrais qu'on touche un mot des projets dans lesquels on met des billes. Moi, je suis entrepreneur, je veux mettre mon entreprise, l'ouvrir à un financement participatif. Est-ce que le profil des entreprises a changé? Je ne sais pas, Bertrand ou Florence qui veut commencer peut-être.
Non, je crois qu'il n'y a pas d'entreprise type pour le crowdfunding. Le crowdfunding maintenant vise très très large. Après, il y a des usages et des canaux un peu spécifiques. Effectivement, la promotion immobilière ou les marchands de biens, ils voient un intérêt parce que au-delà de leur financement en pré-commercialisation et le financement bancaire, ils ont besoin d'avoir des fonds propres et ces fonds propres, ils vont se les faire refinancer par le crowdfunding. Donc, ça, c'est un premier usage. Il y a le financement de la transition énergétique, on y reviendra, mais c'est important d'avoir en tête qu'une plateforme de crowd qui fait du financement de projets type éolien, solaire, etc., a tout intérêt à associer la population locale via le crowdfunding, parce que ça lui donne des taux bonifiés de vente d'électricité à la revente, et par ailleurs ça assure l'acceptabilité du projet, puisqu'il y a une campagne de crowdfunding au cours de laquelle il va y avoir des tables rondes, des ateliers pour bien faire expliquer le projet en
évangéliser
long large,
les projets.
Évangéliser et le rendre plus acceptable pour la population locale. Donc cet outil, c'est un outil de communication et d'acceptabilité qui est assez fort. Puis après, il y a les TPE-PME qui s'en servent pour différents usages.
Oui, il y a un peu pour chaque projet, chaque type d'entreprise, sa plateforme et sa typologie de financement. Après, peut-être sur les types de financement comme l'investissement en capital ou le don encore, on est quand même beaucoup plus sur des projets B2C pour que le contributeur, le parti contributeur comprenne dans quoi il investit et quel projet il soutient. Là où peut-être c'est plus varié sur le prêt ou l'emprunt obligataire, puisque l'investisseur va être plus dans une démarche de constitution d'un portefeuille et de diversification de son épargne avec à la fois la recherche d'un investissement sur de l'économie réelle et d'un impact, mais aussi le taux d'intérêt qui peut monter jusqu'à 12% en ce moment dans l'immobilier.
Voilà, le crowdfunding qui se maintient au-dessus des 2 milliards d'euros de collecte à l'issue, vous nous le disiez Bertrand, d'une année pleine de contrastes. On va continuer à en parler. On va zoomer sur l'immobilier parce qu'on a quelques questions, notamment celle de Laurent qui est tombée. Mais avant ça, on va marquer une toute petite pub. Vous revenez avec nous. Enfin, vous restez branchés. On arrive dans 30 secondes. À tout de suite.